Ben, comment ça va? Qu'est-ce que t'écoutes?
Salut Steph. Bon, moi ça va bien. Je viens de découvrir un morceau. Ah mais j'ai jamais entendu une ligne de basse pareille.
Ah ouais. Ouh là 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 là.
Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment?
Bah tiens, écoute ça. Il y a une section cuivre.
Ah là, c'est morceau d'anthologie, direct. Je crois qu'on arrive.
Oui, on dirait que c'est ici. Bonjour.
Salut Christophe.
Hello.
Hello.
Merci
salut.
De nous recevoir.
Salut Christophe. C'est Elliot Touzalon. Effectivement. C'est un surnom que l'on m'a donné dans un groupe dans lequel je jouais qui s'appelait Tobrogoy. C'était un groupe qui mélangeait les musiques tziganes, fanfares, africaines. Mais en fait, je sifflais souvent. Et voilà, pour mettre de l'ambiance. Et donc, on m'a surnommé Elliot Whistle. Voilà, avec mon côté anglais aussi qui était souligné. Et donc, il y a effectivement des musiciens qui me connaissent uniquement sous le nom d'Elliot. Donc, c'est pour ça que maintenant, je mets les deux pour éviter qu'il y ait ambiguïté.
Tu es bien installé ici, sous les toits. C'est très, très mignon. Et puis, il y a pas mal de machines, des claviers notamment, tout un studio installé.
Effectivement, j'ai une passion pour les synthétiseurs et les boîtes à rythme. Donc, toutes ces machines un peu anciennes qui datent des années 70-80. À la base, je joue de la trompette qui trône sur un pied, mais elle est entourée de toutes ces machines que j'ai glanées au fur et à mesure des années, que j'utilise dans divers projets. Et c'est une passion dévorante, financièrement aussi, puisque déjà, il faut les entretenir, il faut les acheter. Et puis, c'est toujours difficile.
Et les faire réparer.
Ouais, et puis c'est toujours difficile à justifier quand tu te dis que tu as déjà 5 synthés. On te dit, ouais, non, mais celui-là, j'en ai besoin. Mais pourquoi? Alors, pourquoi?
Ah oui, alors expliquer aux non-aficionados des claviers, c'est compliqué. C'est un petit peu comme expliquer pourquoi tu veux encore acheter un disque, finalement.
Oui, bah exactement. C'est pour avoir un nouveau son.
Si tu en as déjà un, je veux dire. Mais tu as déjà un disque, pourquoi tu en veux un autre?
Bah oui. Alors...
comme les livres.
Oui. Alors que...
Bravo, c'était la minute de... Alors, il y a un mini-corg qui est là, un prophète aussi, de l'autre côté. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon d'utiliser c'est...
Oui, donc il a deux oscillateurs, il a petit arpégieur. Mmh. Donc on peut s'amuser à faire des sons, je sais pas, à la Watu Watu.
Quoi à la Watu Watu, ouais. Je connais pas l'expression, tu peux te développer un petit peu, c'est cool. Alors, Watu Watu.
Bah, on peut faire...
Ça me faisait plutôt penser à...
Ouais, l'alarme au lycée, tu sais, le
mini. Bombardement imminent. On a hâte d'écouter quelque chose quand même.
Mm-hmm. Bah alors là j'ai tout n'est pas branché parce que j'ai pas tout rebranché le studio, donc là j'ai branché vite fait quelques synthés ensemble ce matin, et puis voilà, je vais essayer d'improviser dessus avec quelques boucles, on va dire quelques patterns que j'ai mis dans les machines également, et puis donc je vais jouer.
Donc t'as branché tout ça pour nous ce matin.
Exactement.
C'est
voilà.
Trop sympa.
Ça, c'est super sympa.
C'est
la chance que l'on
ouais.
a.
On pourrait appeler ce morceau « Qu'est-ce que t'écoutes ?»
Deux. « Qu'est-ce que t'écoutes ?» Deux.
Ah ouais, le premier est pris déjà.
C'est vrai.
Le premier est pris.
Ah mince.
Mais avec plaisir. On prend.
Ouais, on prévoit de sortir une compile à la fin.
Voilà, et puis donc il y a d'autres machines, effectivement, il y a une ligne drum, Donc ça, c'est une boîte à rythme, un son qu'on retrouve, que tout le monde connaît dans les productions des années 80, 90, même après, ça a encore été utilisé, même si ça a commencé à tomber en désuétude. Puisque chez Michael Jackson, Thriller, il y en a plein, et puis aussi Prince. Et à côté, il y a ça, c'est une réédition par contre d'une TR-909. C'est ce qui a remplacé, on va dire, après ce type, les LM. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, c'est un son qui est produit par des composants électroniques. C'est ce qu'on retrouve sur toute la tech de Détroit. Au départ, et puis sur les grosses productions américaines du début des années 2000, ça a été énormément utilisé. On les a trouvés très rapidement à pas cher d'occasion en seconde main. Ouais. Et c'est pour ça que c'est devenu justement à Détroit les débuts de la techno, les instruments que pouvaient s'acheter les gens qui n'avaient pas trop de fric.
Un Prophète, par contre, ça continue à coûter beaucoup l'argent. Ouais.
Alors le Prophète 5, j'ai eu une chance incroyable, j'ai eu mon professeur de jazz qui s'appelait Manuel Villarroel. Donc j'étais au conservatoire de hier en jazz à la trompette. Il m'a donné ce synthé qui était tout beau, tout neuf, incroyable. Comme il est chilien, il l'avait enroulé dans un poncho qui venait du Chili.
Et, oui. Et il était cassé ou il marchait finalement ?
Alors effectivement, la pile avait coulé. Et donc, je l'ai emmené à réparer. Ça a duré 9 mois. Il y a eu 9 mois de réparation chez Dienstein, qui était un réparateur très
le
connu.
Voilà, dans le 17e ?
Oui, de la place de Paris, qui maintenant a pris sa retraite et qui me l'a réparé. Parce que lui, c'était un grand spécialiste de ce synthé. Et qui a réparé énormément de synthés pour Jean-Michel Jarre ou autre. Et puis qui, lui, a aussi réhabilité, on va dire, sa grande passion, c'était d'essayer de refaire une onde Martenot. Donc il y a un des premiers synthés, justement, qui est né...
Avant-guerre.
Oui, bien avant, oui, oui. Début 20e, effectivement. Donc,
parce qu'au début de Ne me quitte pas de Brel, c'est pas les ondes Martenot qui font l'espèce de si musical.
Ouais, c'est ça. Non, c'est exactement ça, les ondes Martenot dans Brel, ouais.
Alors, nous sommes quand même en présence d'un musicien qui a obtenu plusieurs médailles, médaillé.
Ça tombe juste médaillé d'or.
Médaillé d'or au conservatoire de jazz. Prix spécial du jury à Enghien-les-Bains. Décerné d'ailleurs par Martial Stolal, qui nous a quitté il y a très peu de temps.
Effectivement, qui était un super musicien, un super pianiste. Effectivement, on avait fait ce concours de jazz avec un quartet qui s'appelait Four in One, où il y avait c'était contrebasse, batterie, clarinette, basse, sax et trompette. Et donc, il nous a décerné. Le premier prix est parti pour un autre groupe, mais lui, il a tenu à ce qu'il y ait un prix du jury, et donc il nous a décerné spécialement. Il adorait déjà le fait qu'il n'y ait pas de piano. Et qu'on se détache de... on avait une inspiration, on va dire, un petit peu Ornette Coleman, un peu free jazz, mais avec des compos aussi à la Monk qu'on revisitait, et puis des compos aussi qu'on mettait en commun après. C'est ce qui était intéressant, c'est, par rapport aux manières de faire la musique aujourd'hui, c'est que c'était vraiment un groupe de jazz. Bon, c'était pas quartet. Moi, c'est une conception de la musique qui me manque déjà, mais qui pour moi est primordiale, c'est-à-dire de partager les énergies et les points de vue, les différences, et de jouer ensemble, de répéter et puis d'avancer ensemble et de trouver les idées ensemble. Et souvent on arrive à se dépasser et on arrive à un niveau de musique dont on n'est pas capable même à son instrument. Ça permet de se dépasser.
De toute façon, à plus de 1500 concerts, je crois qu'il y a une autre médaille, hein, 1500 concerts dans tous les pays du monde, d'après ce que j'ai pu lire sur toi, avec des concerts à New York, Central Park, pas mal.
Ouais, ça c'était avec Tiken Jaffa Coli.
Ah oui.
Donc, c'était en reggae. Oui, j'ai tourné quelques années avec lui. Forcément, là c'est grosse scène, gros festival. On a joué dans des stades, quoi.
Le Siget aussi, ça c'est un
ouais,
festival Siget, énorme.
Oui, ouais, c'est énorme.
C'est avec Tiken aussi.
Ouais, Siget, c'était avec Tiken, ouais.
Et alors, on a vu, moi je ne connaissais pas, c'est une collaboration que tu as avec Franck Dadur.
Franck Dadur, ouais, effectivement. Alors, on a enregistré un album à Radio France sur le label Signature, qui était un label qui avait au sein même de Radio France. Qui est terminé maintenant, qui était tenu par Franck Lothor. Et voilà, un super monsieur qui nous a fait confiance et qui a fait surtout confiance à Franck. Et donc, on a fait cet album qui s'appelle Takomitsu. On a enregistré effectivement dans des émissions littéraires où là, on faisait.
De l'illustration.
Ouais, de l'illustration, mais c'était il y avait un petit défi supplémentaire, c'est-à-dire que c'était improvisé. Donc il y avait le texte que l'on ne connaissait pas à l'avance, qui était donc dit et interprété. On avait juste le titre et donc on improvisait dès le départ, quoi. Au début, on commençait d'après le titre et puis venaient les paroles et puis là, c'était l'interaction.
C'est plutôt excitant qu'un exercice.
Ouais, c'est super.
Ça va être très rigolo.
Et ça fait lien avec justement tes autres passions artistiques, l'illustration sonore, parce que tu t'es aussi. C'est un domaine que tu as exploré avec.
Avec une collection qui s'appelle Calliope, qui est une collection de livres audio pour enfants.
Mmh, c'est ça.
Qui s'adresse au départ particulièrement aux enfants aveugles et malvoyants. Puisque en fait c'est l'adaptation de livres qui existent en physique, de livres papier, et donc il y a le texte qui est interprété par des comédiens plus une description des illustrations. Donc et effectivement je fais tout l'habillage sonore, la musique, les sons. Donc c'est sont des projets qui sont qui prennent énormément de temps, qui sont chronophages, mais qui sont passionnants. Où, c'est, le but, c'est de créer un nouvel objet qui soit justement accessible pour ces enfants-là, mais ils le sont en fait pour tous les enfants. Et c'est grâce à l'UNICEF. C'est l'UNICEF qui, avec le prix littérature jeunesse chaque année, donc sélectionne des livres sur un thème, des livres enfants par tranche d'âge, 3, 5, 6, 9. Et donc, il y a 4 livres à chaque fois qui sortent par tranche d'âge et donc qui sont mis en musique et en son. J'évolue aussi dans ce monde-là par ailleurs, en faisant également ce qu'on appelle des régies d'audiodescription à l'opéra, par exemple, où les aveugles ont un casque sur les oreilles. Et... donc on leur décrit ce qui se passe sur scène, et donc c'est mettre en image mentale ce qui se passe sur scène.
Alors ça tombe bien puisque Benjamin voulait te poser une question.
Oui, qu'est-ce que t'écoutes, Christophe?
Qu'est-ce
en
que
ce moment?
Alors en ce moment...
En ce moment. Ouais, en ce moment.
Alors Donald Byrd, qui est un trompettiste que j'ai écouté, mais... plutôt ses albums période jazz, plus classique, quintette. Et là, dans sa période électrique, bon, on connaît tous son tube qui s'appelle Red Clay. Mais en fait, j'ai découvert un morceau, c'était Slop Char Blues. Ça commence par une basse au synthé, au Moog. Et là, je fais... on dirait du Herbie Hancock, période électrique, quoi. Et tout de suite, j'ai été sur Internet, il l'a enregistré en quelle année? Parce que tu te dis, dans ces cas-là, soit il a copié Herbie, voilà. Et c'est enregistré avant l'album des Headhunters de Herbie. Donc là, je me dis, oh là, comment ça se fait?
Et l'album, c'est 74, c'est ça, de Herbie, je crois.
73, quoi, et lui c'est 72. Enfin, il y a un an de décalage entre les deux. Et en fait, il se trouve que avant d'enregistrer l'album des Headhunters, ils jouaient dans des clubs pour se faire la main avec Herbie. Et là, il y avait Byrd Donald Byrd qui était dans le public, et donc il les a doublés un petit peu, on va dire, au niveau de, il a pris l'idée
à la corde, il a pris l'intérieur quoi, dans le tournant.
Voilà, il a enregistré avant.
On écoute. Presque à notre jingle, Steph.
Ouais, presque.
Notre jingle étant un petit bout de l'Irithnour d'un morceau de 76 ou
73,
ouais, c'est ça.
C'est quasi contemporain, mais ouais, juste chouïa avant, quoi.
Voilà.
À la corde.
Ah, c'est bon.
Et il y a bon, le changement d'accord après qui.
The Bridge.
C'est, bon, c'est blues, hein, mais c'est un blues, mais du coup, là, ça fait carrément. Pas mal Watermelon Man, quoi.
Ah, mais ça permet de se le remettre dans l'oreille, par contre, ça c'est bien.
Et le titre, c'est
Slop Jar Blues.
Slop Jar Blues, ok.
Il l'a enregistré quelques mois avant le Headhunters, quoi. Le Herbie.
Peut-être qu'il y a Herbie Hancock dans le line-up, qui sait. Qui a senti se faire doubler pendant qu'il jouait le...
Ouais, c'est sa période Blackbird, c'est ça.
Et donc Donald Byrd, c'est une référence.
Ouais.
Même si j'ai cru comprendre que quand même la référence ultime, c'était quand même le son de Miles Davis.
Ouais, le son de Miles Davis.
Ouais. En fait, on peut le dire. C'est ton casse écoute de l'île déserte, un peu ce morceau Peaceful qui vient de l'album In a Silent Way, qui pour la modique durée de 18 minutes.
Voilà, record battu.
Record battu chez casse écoute. Merci Christophe.
18 minutes, ouais, ça fait plus d'une phase de vinyle.
Ouais, faut ces petits sillons pour que ça rentre.
Thank you.
Génial avec ce musicien, c'est que on peut suivre l'histoire du jazz en écoutant toujours Miles Davis, et c'est ça qui était incroyable. Voilà, il a commencé le bebop avec Charlie Parker, et puis après il est parti dans le cool avec déjà le nonette qu'il avait fait avec Gil Evans sur Birth of the Cool, et puis après il y a eu
de l'orchestre. Aussi, avec Gil Evans, non ? Sessions très orchestrales.
Voilà, alors il a retrouvé Gil Evans après, effectivement, dans les versions orchestrales pour Porgy and Bess, Miles Ahead,
Sketch of Spain.
Voilà, Sketch of Spain. Mm-hmm. Et puis avant, il a eu son premier quintet avec l'album iconique Kind of Blue. Voilà, où je me suis amusé, évidemment, à apprendre tous les solos par cœur. Et puis après le second quintet, et puis après il est passé à la période électrique avec les synthés partout, déjà dans les années 70, hein, puisque c'était une transition lente, avec le Rhode, et puis la basse électrique, et puis donc avec Beaches Brew, et puis après les expériences, on va dire, bien 70 avec les tablas, et puis un orchestre. Mm-hmm. Un orchestre en plus invité indien sur Round the Corner. Voilà. Puis après sa descente aux enfers. Et puis on le retrouve dans les années 80. Il a complètement jazz fusion, jazz rock. Et j'ai eu la chance de voir son dernier concert à Paris. Voilà, qui s'appelait Miles and Friends. Où là, il y avait. C'est la première fois qu'il avait accepté de faire ça, c'est-à-dire de se retourner sur sa carrière et de rejouer des morceaux qu'il n'avait pas joués. Donc il a fait une première partie avec son groupe, et puis après il y a eu les invités, donc il y a eu Chic Corea, Abby Hancock, des volants.
Tu as rejoué du Miles Electric.
Exactement,
ouais. Ah ouais.
C'est pas tous les jours qu'on peut voir tous ces musiciens-là réunis sur scène. Mais c'est ça aussi, ouais, que j'aime bien moi dans la musique. Et dans la musique instrumentale, c'est quand on sort du format et qu'on se laisse le temps. Bon, là, évidemment, là, c'est fait d'une manière assez exceptionnelle avec Théo Macero qui a fait le montage, le producteur, et qui a fait après tous les autres. Mais pourquoi se limiter au niveau de temps, quoi ? Et justement, dans la musique instrumentale, c'est ça que j'ai bien aimé dans les musiques, on va dire, répétitives et même dansantes, type techno ou être, ou même à écouter, de sortir du format de la chanson.
C'est ce qui fait qu'on va s'en souvenir, justement. C'est ce qui fait que
si on l'écoute,
une pièce va marquer les esprits plus qu'une autre. Il y a des temps différents, parce qu'en 18 minutes, il y a différents temps qui sont abordés, différentes. Ouais, des temps, des moments, des.
Oui, il y a des différentes phases. Bien que là, ça soit ce qu'on appelle la musique modale, donc c'est, on va dire, il n'y a pas beaucoup d'accords. Donc ça, il y a déjà un côté répétitif aussi. Et même, il avait demandé à son batteur de faire un beat et de pas bouger, quoi. Pas de relance, pas de break, etc. Donc, ouais, l'idée, c'était de rentrer dans quelque chose d'hypnotique.
Ouais, c'est ça. Ça marche bien. Hein.
La transe. Ah, la transe, ouais, voilà. C'est ça, bien sûr.
Donc, Christophe, si tu devais croiser ton idole de tout temps, qu'est-ce que tu aurais comme question à lui poser ou comme sujet à discuter avec lui ?
Bah, mon idole, oui, c'est un peu Miles Davis.
Il n'y a pas trop spoil. Ouais, ça.
Non. Bah, si je le rencontrais, ça serait déjà une grande chance. Sinon, s'il y a une question que je me suis toujours posée, enfin, c'est pas une question, c'est j'aurais aimé être là, en fait, à cette place-là, être une petite fourmi quand il y a une légende qui tourne. Est-ce qu'elle est vraie ou pas, déjà ce qui est avéré, c'est qu'il devait faire un album avec Hendrix, tous les deux, qui ne s'est pas fait pour des histoires de calendrier. Et puis après, parce que Hendrix est mort, mais il paraît qu'ils ont enregistré dans le sous-sol de Miles, enfin pas enregistré, non, mais qu'ils ont fait un buff, et qui tous les deux, et, avec d'autres musiciens invités, qu'ils ont joué une nuit chez lui. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Mystère.
Et si c'est vrai, est-ce qu'il y a des traces ?
Est-ce qu'il y a eu un enregistrement ?
Non, il n'y a pas d'enregistrement. Par contre, ça, c'est sûr.
Non.
Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'enregistrement, mais ça aurait été quelque chose quand même.
Merci Christophe pour nous avoir reçus chez toi et pour avoir passé ce bon moment.
Merci.
Merci
Christophe.
Voilà, Qu'est-ce t'écoute, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve le 11 février pour un nouvel épisode. Ciao.